Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice qui ce soir va porter sur les assassinats ciblés en compagnie d'Amélie Ferret. À l'heure où est enregistrée cette émission, le sort d'Alexeï Navalny est encore incertain. Il rappelle l'actualité, la triste actualité de l'assassinat politique toujours dans notre monde. Cette violence d'État, même si rien n'est encore établi contre Poutine, est-elle l'apanage des dictatures ou des régimes illibéraux ? Eh bien non, parce que les démocraties libérales aussi peuvent pratiquer ce qu'on appelle des assassinats ciblés. Qu'est-ce qui distingue cette nouvelle forme d'acte de guerre partant de paix de l'assassinat politique ? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît, elle est même délicate. Et le livre d'Amélie Ferret nous aide à y voir un peu plus clair. Amélie Ferret est docteur en sciences politiques, chercheuse au CERI et actuellement détachée à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire de l'IRSERM. Et son livre s'intitule « Assassinat ciblé, critique du libéralisme armé » et vient de sortir aux éditions du CNRS. Bonsoir Amélie Ferret.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, les exemples ne manquent pas malheureusement d'assassinats ciblés. Je pense notamment au dernier en date et peut-être le des plus atypiques qui est celui du général Soleimani en Irak par les Américains.
Oui, tout à fait. Et effectivement, vous avez raison de souligner qu'il est atypique. Atypique dans le sens où il s'agit cette fois d'un membre d'une armée d'un État régulier, même si auparavant l'organisation à laquelle faisait partie le général Soleimani a été classifiée comme une organisation terroriste par les États-Unis. Mais tout de même, dans l'esprit de la communauté internationale, il s'agit d'un représentant officiel d'un État, alors que auparavant, les éliminations ciblées ou les assassinats ciblés, en fonction de la terminologie qu'on préfère, étaient ciblés davantage des personnes qui appartenaient à des non-state actors, c'est-à-dire des personnes soit d'organisations terroristes, soit d'insurrection.
Oui, d'autant qu'en plus, les États-Unis ne sont pas formellement en guerre avec l'Iran. On voit pas. Et puis, ça a été un acte de provocation, quoi, qui a été immédiatement ressenti comme un acte de provocation. Donc, là aussi, c'est atypique, Amélie Ferret.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que donc pour le cadre de la guerre, les États-Unis s'arrogent en fait le droit de cibler les personnes qu'ils considèrent comme des menaces, même s'ils ne sont pas directement en guerre avec ces personnes-là. Cependant, ce qui est intéressant, c'est que ça donne de l'eau au moulin des critiques des assassinats ciblés, des opposants aux assassinats ciblés, en disant, vous voyez, on a commencé en 2001 avec la guerre contre le terrorisme à cibler des acteurs terroristes, et aujourd'hui, c'est devenu quasiment légitime sur la scène internationale pour régler des différends entre États, et donc, c'est inquiétant sur la stabilité du monde par la suite.
Les chiffres sont assez impressionnants d'ailleurs, du nombre d'assassinats ciblés pratiqués. Alors, principalement, on va parler de deux pays qui, principalement, sont les États-Unis à Israël, même si d'autres le pratiquent, on y reviendra. Mais de quel ordre de grandeur, Amélie Ferret ?
Alors, il y a effectivement toute une genèse des assassinats ciblés qui convient de rappeler, parce que on voit en fait qu'il y a vraiment eu une généralisation de cette pratique depuis en fait 2001. Donc au départ, c'est une pratique qui a été faite par l'armée israélienne et qui a été pensée dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Les États-Unis l'ont condamnée en 2001, par la voix de l'ambassadeur américain en Israël qui a dit « Les États-Unis ne soutiennent pas ce type de pratique, on considère que c'est illégal par rapport au droit international ». Et par la suite, les États-Unis donc changent de position et adoptent la position israélienne.
Très peu de temps après, quand même, non ?
Oui, très peu de temps après, c'est ça. Mais ça montre quand même que justement le droit international et l'interprétation du droit international, elle peut bouger en fonction des considérations politiques. Et ce qui est intéressant, c'est que paradoxalement, George W. Bush a peu utilisé des assassinats ciblés. C'est de l'ordre de 50 opérations, alors que Barack Obama a énormément utilisé ce type d'opération et a élargi en fait ses opérations en utilisant le drone armé. Donc les estimations sont très variables parce que c'est pas toujours facile pour les organisations humanitaires d'aller sur place pour vérifier exactement qui a été tué, qui a été blessé. Donc on est dépendant des informations données par l'armée qui sont pas forcément fiables ou qui sont pas forcément accessibles tout simplement, mais on est de l'ordre de 5000 personnes à peu près. Connues, évidemment. Connu. Pour les États-Unis seulement.
Pour les États-Unis seulement, ce que j'allais dire, pour les États-Unis seulement. Et alors, dans ces 5000 personnes, il faut bien sûr distinguer le cas d'Oussama Ben Laden et de cette phrase d'Obama aussi qui est quand même très interpellante, pourrait-on dire. Justice a été faite.
Voilà, exactement. Et ça illustre en fait toute l'ambiguïté des assassinats ciblés, notamment par rapport au droit, ce qui est à mon avis le point central, c'est que à la fois au niveau du droit, évidemment, on ne peut pas utiliser la force dans le cadre rétributif, c'est-à-dire dans le cadre de la violence. On ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'il nous a fait du mal. Mais la seule manière de justifier ces opérations, c'est le cadre préventif. Donc c'est dire, on va tuer cette personne, on va éliminer cette personne si elle se trouve, par exemple, au Pakistan, en dehors d'un théâtre de guerre, parce que elle représente une menace future. Or, quand Obama dit « justice has been done », eh bien, ça montre qu'il y a clairement une dimension de justice, donc rétributive, qui s'inscrit dans cette opération.
C'est ça. Alors, vous disiez que les noms varient et que le terme d'assassinat ciblé n'est pas très bien reçu par la communauté militaire et par les gens du renseignement qui disent, ben non, nous ne sommes pas des assassins. Et on va revenir, bien sûr, avec vous, Amélie Ferret, sur cette distinction. Alors, comment ça se dit en hébreu
Alors, en hébreu, on parle de sikul memukad, ce qui veut dire littéralement prévention ciblée. Donc là, on est complètement dans l'euphémisation des opérations, puisque la mort n'est pas citée, et le cadre préventif est vraiment présent dans cette dénomination. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est quand j'ai fait mes entretiens avec l'armée israélienne, en fait, eux, ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient dans le cadre de la seconde intifada, et les opérationnels sont allés voir la branche juridique de Tsahal, donc de l'armée israélienne, qui est par ailleurs un département qui est en croissance exponentielle. C'est une des seules unités de Tsahal qui connaît justement une augmentation en termes d'effectifs et en termes de budget. Et donc, ils leur ont demandé, voilà, on a des personnes dont on sait qu'elles ont des activités terroristes. Est-ce qu'on peut aller les cibler spécifiquement ? Sachant que le problème de la seconde intifada, c'est que ces personnes-là avaient le statut de civil. Et l'armée israélienne a dit OK, on va réfléchir. Et ils ont créé donc cette catégorie juridique nouvelle, cette interprétation juridique nouvelle, qui est celle de l'utilisation préventive à la violence, mais donc dans un cadre ciblé. Et c'est pour ça que ça s'appelle prévention ciblée. Mais avant, c'était pas, on appelait ça simplement un permis de tuer.
Je pense que ça paraîtra abstrait certainement à beaucoup de nos auditeurs qui sont pas sur le terrain israélien, même s'il est assez présent dans notre débat national, mais ils en ont conscience, j'allais dire, à travers la série israélienne Fauda. Oui. Alors ça, qui a connu un extraordinaire succès, qui est une très très bonne série, mais extrêmement ambiguë, parce que elle installe dans les esprits, dans les consciences précisément, Amélie Ferret, elle installe l'idée de la normalité, et plus qu'une normalité, une sorte de séduction par l'intrigue qui est formidable, qui est palpitante, de la légitimité de cette pratique.
Oui, exactement. Donc en fait, Fauda, là aussi, on a un retournement du droit international. C'est une série qui a été produite et qui narre le quotidien d'une unité qui s'appelle les Mista Aravim, c'est-à-dire ceux qui se déguisent en arabe, donc en personne arabe, pour opérer derrière les lignes ennemies. Et donc ça correspond aux unités d'Ouvdevan, qui veut dire cerise en hébreu, qui donc vont déguiser donc en civil, donc en palestinien, pour procéder à des arrestations à l'intérieur de la Cisjordanie notamment. Or, ça, c'est complètement illégal du point de vue du droit international, puisque ceux qui usurpent l'immunité des civils, puisque quand on est civil, on n'a pas le droit normalement de porter des armes, eh bien, normalement, ce sont les terroristes. Donc, très très longtemps, Israël a nié l'existence de ce type d'opération. Et avec Fauda, donc là, ça illustre vraiment le changement de l'attitude vis-à-vis de la force de la communauté internationale. Ils reconnaissent ouvertement l'utiliser. Et en plus, comme vous l'avez remarqué, il y a une romantisation de ce type d'unité.
Bien sûr, bien sûr. Et qui est extraordinairement bien faite, vu les talents israéliens d'art dramatique. Mais dites-moi, Amélie Ferrez, cette unité, alors je ne parle pas de l'unité qui agissait déguisée en arabe. D'une manière générale, on n'aime pas les gens qui se déguisent. Le droit militaire, le droit international, depuis très très longtemps, n'aime pas les gens qui se déguisent. Vous savez peut-être que le chef d'inculpation de Jeanne d'Arc, du procès de Jeanne d'Arc, c'était d'avoir pris les apparences d'un homme.
Et ben voilà. Mais c'est tout à fait significatif, puisque, et d'ailleurs, c'est ça tout le problème des assassinats ciblés, c'est qu'en fait, mais en même temps, c'est ce qui fait l'intérêt du droit, c'est que le droit a une volonté de donner de l'ordre au réel, de manière, dans le cadre de la guerre, à limiter la violence, et les assassinats ciblés viennent brouiller les frontières existantes entre ce qu'est la guerre, ce qu'est pas la guerre, ce qu'est un civil, ce qu'est un combattant, ce qu'est un État, ce qui n'est pas un État. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait, d'étudier la guerre à partir de ce brouillage conceptuel.
C'est ça, et de cette, on pourrait appeler même une déformalisation de la guerre. Parce
exactement.
Que la guerre, et c'est un vrai problème que nous connaissons bien en France comme ailleurs, malheureusement, avec la question du terrorisme. Mais alors, arrêtons-nous quand même un petit peu sur l'unité spéciale. Là aussi, il y a une évolution entre les forces spéciales qui, par définition, sont des forces invisibles et secrètes. J'ai vu dans le livre, vous parlez à un moment de unnamed actions, les actions qui n'ont pas de nom. C'est extraordinaire quand même aussi comme manière de désigner. Et des personnels politiques au plus haut niveau israélien sont issus de ces unités spéciales. Je pense à Ehud Barak ou Benjamin Netanyahu ont servi dans ces unités.
Tout à fait. Mais justement, le fait que de unnamed action, c'est très intéressant parce que c'est exactement le destin des assassinats ciblés. C'est-à-dire qu'avant, c'était unnamed action et c'est devenu une catégorie et une interprétation juridique. Et d'ailleurs, je souligne à cet égard que tous les États ont tué leurs ennemis et se sont arrogé le droit de tuer leurs ennemis. Mais au XXIe siècle...
Vous dites dans l'histoire.
Dans l'histoire, oui. Exactement. Mais au XXIe siècle, avec les assassinats ciblés, quelle est la nouveauté? C'est qu'on passe du secret des renseignements des actions clandestines, en fait, à une reconnaissance étatique. Et pourquoi on passe justement d'un univers du secret à un univers public? Parce que les États sont de plus en plus frileux pour envoyer des commandos, puisque les commandos, ça pose un risque humain important. Et donc, on va recourir à l'arme aérienne, soit par le biais d'hélicoptères, soit par le biais du droit, ce qui permet de préserver nos soldats. Mais qui a un hélicoptère ou un drone, ce sont des États. Donc, si vous envoyez un drone aux frontières du Pakistan, vous pouvez difficilement nier qu'il s'agit de vous. Donc, d'où la nécessité de théoriser, en fait, ce type de pratique qui ne se posait pas avant.
Oui, c'est là. Alors, on a eu le problème, c'est une des dimensions de cette difficulté que la France a connue d'ailleurs une attaque. Alors, on est dans le cadre d'une guerre, hein, dans la guerre contre Daesh. C'est la fameuse opération du 8 octobre qui était destinée, semble-t-il, hein, je n'ai pas d'information spéciale, mais le Monde disait à éliminer Ben Ghalem, un dénommé Ben Ghalem, qui était un Français de la région parisienne, extraordinaire. Dangereux, et donc là on est à mi-chemin entre l'opération militaire dans le cadre d'une guerre et l'assassinat ciblé. Il y a quand même un problème, c'est que par hélicoptère ça fait nécessairement des dommages collatéraux.
Voilà, exactement. Mais d'ailleurs, enfin, juste sur le point que vous avez soulevé, en France, en fait, on a deux types d'opérations létales. On a les opérations dites homo pour donc tout ce qui est DGSE, service action de la DGSE, qui sont clandestines et qui en général sont constituées en fait d'équipes d'hommes qui sont envoyés par voie terrestre. Et on a ce qu'on appelle les éliminations ciblées, qui elles sont faites par l'armée. et qui, donc, justement, utilise les frappes aériennes dans des contextes, en ce qui concerne la France, dans des contextes de guerre reconnus. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une grande porosité entre ces deux corps, puisque, en fait, en fonction des listes qui sont établies de cibles à haute valeur, on va avoir une coopération et un partage de renseignements et même des activités conjointes entre ces deux institutions. Mais cela dit, effectivement, quand vous utilisez forcément une arme aérienne, vous avez le risque d'avoir des dommages collatéraux qui se posent aussi, cela dit, pour les opérations terrestres, mais qui se posent plus dans les frappes aériennes. Pourquoi ? Parce que vous avez forcément l'équilibre à faire entre protéger nos soldats ou protéger leurs civils. Voilà. Et ça, c'est toute l'équation morale des assassinats ciblés.
On va revenir sur cette équation morale et sur les dilemmes que ça pose. Mais on voit bien la différence, et là, je m'adresse à la philosophe que vous êtes, à la politiste que vous êtes, parce que quand on va par voie terrestre, qu'un agent de la DGSE prend des risques. Et j'avais reçu à ce micro, il y a quelques mois, un agent du service action qui disait la peur terrible d'agir sous un faux nom. Parce que personne ne vous connaît et parce que on n'est pas sûr qu'on vous qu'il arrive quoi que ce soit qu'on risque d'être terminé comme un chien dans un fossé. Et donc il y a un risque pris par nos unités pour un bénéfice militaire stratégique identifié avec des procédures extrêmement strictes. Et donc il y a le risque fait lien, j'allais dire, entre ce que le risque prend l'auteur et la possibilité qu'il a, lui, d'y rester aussi dans cette opération. Quand on tire d'un drone, ou quand on est en Virginie et qu'on a un drone qui survole le Pakistan, toute symétrie, tout reste de cette dimension d'échange, finalement, de l'acte de guerre a disparu.
Oui, c'est ça. En fait, donc ça renvoie effectivement à toute une critique, notamment de la guerre par drone, avec ce qu'on appelle l'hypothèse du tampon moral. C'est-à-dire que, mais ça, c'est une question qui est souvent traitée dans tout ce qui est introduction d'une nouvelle arme, puisque il y a eu le même débat sur l'utilisation de l'arbalète qui avait été condamnée par l'Église catholique. Donc, oui, c'est-à-dire que à partir du moment
le même débat aussi de Schmitt sur l'arme aérienne, hein, oui, voilà, proliférée, hein.
Exactement.
Schmitt, l'introduction du bombardement aérien a été extrêmement discutée. D'ailleurs, elle reste toujours, à mon avis, discutable. Mais ça,
oui, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est d'ailleurs un des aspects de ma recherche que j'ai vraiment trouvé très intéressant. Mais en tout cas, l'hypothèse du tampon moral, c'est que plus vous éloignez la distance entre la cible et la personne qui tue, plus on a une dilution morale. C'est-à-dire que si vous êtes un pilote de drone, justement, dans votre base aux États-Unis, finalement, quel va être l'effet pour vous d'aller tuer Oussama Ben Laden? Enfin, bon, en l'occurrence, c'est pas un bon exemple, puisqu'il y avait une unité cible.
Oui, c'est ça.
Mais d'aller tuer une cible à des kilomètres. La manière dont l'armée américaine a répondu à ça, c'est en disant mais pas du tout, il n'y a pas du tout de dilution morale, nos soldats souffrent de stress post-traumatique, et d'ailleurs les soldats de drone, enfin les pilotes de drone souffrent plus de syndrome de stress post-traumatique que les pilotes d'avions de chasse.
C'est paradoxal parce qu'ils sont très loin et que a priori il n'y a pas même pas le risque physique d'être descendu par un missile.
Exactement, mais comme vous l'avez souligné, le risque physique, ça fait aussi partie de l'éthos militaire et donc de la manière dont on se positionne dans la société, dans la manière dont on se valorise aussi psychologiquement, et donc c'est plus difficile de rationaliser l'acte de tuer quand on n'a pas justement de risque parce que on est taxé justement de planquer à l'intérieur de l'armée.
Yeah.
Esprit de Justice,
Antoine Garapon.
Et nous continuons en compagnie d'Amélie Ferret cette discussion sur les assassinats ciblés. Amélie Ferret qui a choisi de nous faire entendre un air de musique. Vous pouvez nous le présenter, Amélie Ferret?
Oui, tout à fait. En fait, il s'agit donc du dernier titre de l'album Drones du groupe britannique Muse qui est sorti en 2015. Et j'ai choisi ce titre parce que donc déjà il y a une beauté puisque c'est un titre qui est donc où les chanteurs chantent a cappella, mais aussi parce qu'on a une sorte de prière.
Et d'ailleurs, on dirait du chant grégorien.
Exactement. Exactement. Avec une personne qui dit, voilà, qui a été tuée par un drone. Et donc, ça permet aussi de réfléchir à l'impact que ça a sur, non seulement sur nos sociétés à nous occidentales qui utilisons ces technologies, mais aussi sur les populations sur lesquelles sont utilisées ces technologies.
Alors, c'est dans ce sens-là, d'ailleurs, Amélie Ferret, que c'est très révélateur d'une condition contemporaine, d'une condition de moderne, cette condition de, on pourrait appeler, de déterritorialisation ou de déspatialisation, comme on veut. C'est-à-dire que, finalement, la guerre, la bataille, c'est l'affrontement entre deux armées, c'est une comparaison des forces, nous dit Clausewitz, c'est une comparaison des forces. Il faut donc que les forces soient comparables pour permettre cette dimension ordalique de la guerre, pour permettre finalement l'expression d'une force surnaturelle qui attribue la victoire à l'un des combattants. Et c'est peut-être de cette attribution, c'est un grand thème de l'anthropologie de la guerre, même jusqu'à encore Bob Dylan, Dieu est avec nous, on gagne, Dieu est avec nous, on perd, ben c'est que... Bon. Et là, la condition du terrorisme où on pense à des conflits comme celui du terrorisme international islamiste, qu'il soit au Pakistan, qu'il soit en Syrie, eh bien, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de combattants, il n'y a que des civils déguisés en personnes dangereuses, et donc il n'y a plus la possibilité de cette localisation de la guerre par le champ de bataille. Est-ce que c'est pas de ça que serait le signe du développement des assassinats ciblés?
Alors, je suis à la fois d'accord avec vous et pas d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que justement, effectivement, il me semble que les assassinats ciblés indiquent une mondialisation dans la manière de faire de la guerre. De faire la guerre. Pourquoi? À la fois, justement, par l'utilisation de technologies qui perturbent en tout cas ou qui ne respectent pas forcément les frontières, comme par exemple les drones, puisque la drone a la capacité justement de remodeler la géographie de la guerre, en notant toutefois que en attendant le développement de drones de combat plus performants, il faut quand même utiliser un drone dans un ciel ami, donc avec à prendre avec nuance. Et effectivement, oui, une mondialisation, une déterritorialisation dans la capacité qu'ont les armées à appliquer, à faire disparaître juridiquement le champ de bataille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de champ de bataille. À partir du moment où le corps du terroriste se déplace, et le champ de bataille qui se déplace. Cela dit, je ne suis pas non plus complètement d'accord avec ça parce qu'il me semble que dans les conflits actuels, la dimension territoriale est quand même importante.
Surtout dans le conflit israélo-palestinien.
Voilà, exactement.
Oui, ben oui, bien sûr. Mais alors, continuons parce que ça me semble, vous parliez de cette porosité, mais dans le cas, parlons de notre pays, de la France, des attentats du 13 novembre, cette déterritorialisation, on ne l'a pas choisie. C'est-à-dire le fait qu'on a un combat que sur des motifs religieux, qui ne sont même plus politiques, avec des personnes insaisissables, qui sont des civils, qui sont des concitoyens d'ailleurs. Bon, ça c'est une donnée de fait pour les États contemporains, Amélie Ferret.
Déjà, la différence entre religion et politique, elle est aussi, à mon avis, très poreuse, puisque eux, justement, ils ont une lecture, politique de la religion qui, justement, est utilisée pour servir leurs ambitions politiques. Mais de toute façon, ce qui, à mon avis, est structurant dans la manière dont sont utilisés les assassinats ciblés aujourd'hui, c'est qu'ils sont utilisés contre des personnes qui contestent la souveraineté d'État. mais ils la contestent également au nom de leur propre imposition d'un État. Enfin, c'était vraiment très frappant dans le cas de Daesh, par exemple. Cela dit, effectivement, comme on n'est pas dans le cadre de deux armées qui s'affrontent, eh bien, à la fois, il y a une montée aux extrêmes, puisque, donc ça, c'est les analyses de Schmitt, hein, qui sont aussi à prendre avec des pincettes, mais qui sont quand même assez vraies sur la théorie du partisan. Et également, eh bien, voilà, effectivement, on est face à des menaces qui sont des civils, et ce qui est très problématique pour les États, juste, je sais que c'est une explication longue, mais quand même. Ce qui est problématique pour les États, c'est que vous avez, par exemple, un Français qui va rejoindre Daesh. S'il est en Syrie, là, vous pouvez le cibler parce que vous êtes dans un contexte guerrier. Mmh. Voilà. Donc, il est considéré comme un combattant, même mais... s'il fait pas partie d'une armée nationale. Cette même personne passe en Tunisie ou en Turquie pour venir faire des attentats en France. Eh bien, elle sort du théâtre de guerre et donc elle n'est plus combattante, elle est civile et donc vous n'avez plus le droit de la frapper. Oui. Donc le problème c'est que les assassinats sont une réponse à ça.
Oui, d'ailleurs on ne les frappe pas, d'ailleurs on ne les tue pas. À partir du moment où ils sont, c'est toute la différence de la politique française en matière de lutte contre le terrorisme et non pas de guerre contre le terrorisme. La nuance est d'importance et d'ailleurs vous le dites dans deux formules que je trouve personnellement extrêmement percutantes, Amélie Ferré, dans votre livre vous dites « le monde comme champ de bataille ». C'est-à-dire c'est le monde comme champ de bataille et le corps comme unique et dernier territoire.
Voilà, c'est exactement ça. Mais ça, c'est comme vous l'avez souligné, c'est l'interprétation des États-Unis, puisque en réponse à ce contexte stratégique, les États-Unis disent, nous, on considère qu'à partir du moment où la personne se déplace, le champ de bataille se déplace avec la personne. Donc, si on a un terroriste qui soit en Afghanistan, en Irak ou qui soit en Turquie, nous, on considère qu'on a le droit de le tuer. Oui. Sauf que eux, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour Oussama Ben Laden, qui était au Pakistan.
Oui, alors il y a un cas qui est plus...
Alors que la France, non.
Non, la France ne fait pas. Elle peut s'honorer de ne pas le faire, à mon avis, hein, de regarder et d'avoir un souci du droit international beaucoup plus fort que les États-Unis. Mais je pensais à une autre affaire. Je pensais que vous alliez nous parler de l'affaire de Anwar El Awlaki, qui est un citoyen américain. Alors c'est là ce qui est très intéressant. C'est un citoyen américain qui est tué par drone au Yémen, pas par drone, par l'armée américaine, par l'aviation, je crois. Hein.
Oui, c'est
par
ça.
L'aviation. Le 30 septembre 2011. Voilà, c'est ça. Et donc là, on franchit un pas supplémentaire. Ça veut dire que le critère même de la nationalité n'est plus ne fait plus barrière pour l'administration américaine.
C'est ça, mais en fait le cas Al-Awlaki, il est vraiment très intéressant parce que il montre aussi les ambiguïtés, la lutte en tout cas entre la raison d'État et le droit. Mmh. Pourquoi ? Parce que donc lui, c'est un personnage assez ambigu. Il a bénéficié d'une bourse Fulbright, donc qui est quand même très prestigieuse. Il a étudié aux États-Unis. Il est devenu un imam réputé aux États-Unis. Pour certains journalistes, il a collaboré avec la CIA dans le cadre justement de la surveillance après les attaques du 11 septembre. Des communautés musulmanes américaines. Puis, finalement, il a été mis sur cette liste de cibles. Donc, il est parti à Londres, puis ensuite au Yémen. Or, au moment où il était sur cette liste de cibles à haute valeur, donc des personnes à neutraliser pour les États-Unis, son père a fait une requête
devant le juge américain.
Voilà, exactement, et donc aidé de la CLU. Et donc,
CLU, pour nos auditeurs,
c'est l'American Civil Liberty Union,
qui était une sorte de Ligue des droits de l'homme, très, très populaire aux États-Unis.
Exactement. Et donc, alors même qu'il était recherché par les États-Unis, il y a une cour américaine qui a été chargée donc de vérifier si on pouvait le faire retirer ou non de cette liste et quelles étaient ses garanties juridiques. Et ça, c'était permis justement par le fait que c'était un citoyen américain. Vous voyez ? Donc, à la fois, les États, effectivement, peuvent à certaines conditions tuer leurs citoyens, mais en même temps, on se retrouve dans une situation où des combattants ennemis ont des garanties juridiques dans les propres cours.
C'est ça. Alors le droit, c'est peut-être ça la différence. Je vous ai pas posé directement la question sur ce qui distinguait le meurtre de Khashoggi, par exemple, à Istanbul par le MBS, par le roi d'Arabie ou le successeur désigné, ou bien alors Alexei Navalny, des assassinats ciblés. Les assassinats ciblés sont des décisions prises collectivement avec des procédures assez strictes d'ailleurs, même si elles ne sont pas visibles, et qui peuvent donner lieu à des recours. Alors, des recours qui parfois prospèrent. Et là, il y a eu quand même une affaire en Israël qui montre toute l'ambivalence à l'égard du droit d'Israël, qui était un pays dans lequel, qui est en guerre et dans lequel le droit a une extraordinaire importance.
Voilà, exactement. Donc c'est, j'imagine que vous voulez parler de l'affaire Salah Shradeh.
Bien sûr, et de l'arrêt du 14 décembre 2006 de la Cour suprême israélienne.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment, c'est ce qui est fascinant en Israël, qu'Israël est dans une position presque schizophrénique entre à la fois une critique très forte politique envers le droit international, qui est vu justement comme anti-sioniste, voire antisémite, et en même temps un souci de respecter le droit international avec justement un département juridique de l'armée israélienne très important et une cour suprême très interventionniste. Donc qu'est-ce qui s'est passé avec Salah Shradeh ? Salah Shradeh était un des chefs des brigades Al-Qassam du... oui, c'est ça. Du Hamas. Et il a été tué dans une bombe d'une tonne qui a été larguée en 2002 son immeuble à Gaza, sachant que Gaza, c'est une des zones les plus densément peuplées du monde. Donc on a eu 14 dommages collatéraux, dont 8 enfants, énormément de débris de personnes blessées. Et la famille, en fait, de Salah Shradeh a décidé de faire une requête au nom de la compétence universelle, c'est-à-dire dans les cas, en fait ça c'est un régime juridique qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, et d'ailleurs c'est ça à mon avis l'enjeu principal des assassinats ciblés aujourd'hui, c'est justement l'avenir de cette légalité internationale construite après 45.
On parlera de la légalité internationale voilà. Ensuite, mais sur
donc
l'affaire...
qu'est-ce qui s'est passé donc ils sont allés voir une cour espagnole pour dire cette opération est un crime de guerre puisqu'elle n'est pas proportionnelle, et donc la cour espagnole a en fait forcé la cour israélienne a défini le cadre juridique des assassinats ciblés, ce qui montre bien, vous parliez de détériorisation, je n'arriverai pas à le dire.
Déterritorialisation.
Voilà. Eh bien, là, ça montre bien que justement, il y a un jeu entre les cours et qu'on peut contrer la raison d'État en utilisant d'autres cours. Et donc, il y a une application du droit qui se passe des frontières nationales.
Oui, c'est ça. Alors, ce qui est très intéressant dans la cour israélienne pour un juriste et pour c'est l'audace juridique, c'est-à-dire qu'il regarde les problèmes en face, et notamment ce président extrêmement célèbre Aaron Barak écrit une décision dans laquelle il prend le problème à bras le corps, et il prend le problème à bras le corps, ils mettent du temps, 6 ans à rendre leur décision, mais finalement ils disent quelque chose sur le droit des assassinats ciblés.
Exactement, en fait il définit donc en 2006 dans un arrêt très connu, qui est d'ailleurs un de ses derniers arrêts, tout un cadre pour les assassinats ciblés, en disant, voilà, on peut le faire si justement la cible est un civil participant aux hostilités, si on n'a pas d'autres options, si l'opération, elle est proportionnelle, et on va créer des comités pour vérifier justement les cas litigieux. Or, ce que j'ai découvert en faisant ma recherche, c'est que ces comités, en réalité, n'existent pas.
C'est ça. Vous avez été chercheur en Israël pendant aussi deux ans.
Mais j'ai fait aussi mes recherches doctorales avant en Israël. Et donc, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on a aussi une stratégie pas forcément consciente de la part des États, en Israël c'est comme ça que je pense que ça se passe. Vous avez à la fois la volonté de construire un édifice juridique important, fort, mais qui sert aussi à protéger justement l'État devant une juridiction internationale. Vous voyez ? Donc c'est le droit ici, il ne sert pas seulement à restreindre les actions militaires, comme ça peut être perçu par exemple en France, le droit n'est pas contre les militaires, il peut aussi au contraire les protéger à long terme.
Oui, mais Amélie Ferré, on pourrait vous répondre que vous parliez de la schizophrénie de l'attitude israélienne, et je crois que cette schizophrénie est notre lot à tous. À tous les pays libéraux, c'est-à-dire qui cherchent à honorer l'état de droit et en même temps à se protéger et qui ont à faire face à ces formes de violence. Alors, on n'est pas du tout dans la situation israélienne, mais je veux dire par là, c'est est-ce qu'il est possible d'appliquer le droit dans toute sa rigueur quand on n'est plus dans un système qui organise le monde? Et alors, je vais préciser tout de suite ma question, la question que je vous pose, c'est on sort d'un système qui était le système dit westphalien, c'est-à-dire qu'on s'organise et chacun est maître chez soi. Il y a une distinction entre le droit et la morale, entre le droit et la politique, et l'État est la seule source de droit interne et le seul sujet de droit international. C'est clair et ça a marché. Aujourd'hui, ça peut plus marcher. Donc est-ce que cette difficulté du droit international et du droit interne à s'articuler, elle n'est pas consubstantielle à notre monde?
Après 1945, on a quand même construit justement des mécanismes juridiques pour limiter la raison d'État. Et ce qui est en jeu aujourd'hui...
La Charte de l'ONU.
Voilà, exactement. Et je pense à la Cour pénale internationale, enfin à l'idée que justement, crime de guerre, crime contre l'humanité, ce type d'instrument juridique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est face justement à une remise en cause de ça. Une remise en cause, d'ailleurs, on le voit dans les attaques qui sont faites par les Américains envers la Cour pénale internationale.
Dès 2001, d'ailleurs, le 9 septembre, ils attaquent le droit international. En disant il n'est plus adapté, voilà. Et il vise le terrorisme.
Et d'ailleurs, l'assassinat du général Soleimani, c'est vraiment prendre acte du fait que, de toute façon, se soucie de la légalité internationale, c'est certainement pas les États-Unis. Donc on est à la fois dans un mouvement de recul, mais on est également, paradoxalement, dans un mouvement aussi de triomphe, parce que aujourd'hui, pour l'opinion publique, l'égalité égale légitimité. Donc à partir du moment où il y a un cadre légal, comme par exemple en Israël, ça fait plus trop débat, alors qu'en réalité, le cadre légal, il n'est pas forcément appliqué, vous voyez. Et ce qui m'a surprise dans cette recherche, c'est que qui a écrit sur les éliminations ciblées ou sur les assassinats ciblés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Israël, que ce soit en Grande-Bretagne, ce sont les juristes. Et la littérature juridique est massive sur ces questions-là, et ce ne sont pas du tout justement les politistes ou les stratégistes.
Tout à fait. C'est très élaboré. Le débat israélien est passionnant, parce que c'est un débat qui est relancé par Haaretz, notamment, dans lequel il y a eu des contributions, mais je pense aussi au New York Times, c'est-à-dire que ce qui distinguerait, je parle sous votre contrôle, Amélie Ferré, ce qui distinguerait les démocraties libérales des dictatures, c'est précisément ce débat. C'est cette possibilité de débat.
Oui.
C'est cette possibilité d'exprimer un désaccord. Les opposants les plus farouches aux assassinats ciblés se trouvent en Israël.
Oui, tout à fait. Et comme vous l'avez dit aussi, ça, c'est vrai que c'est un point très important. Ce qui distingue Israël, les États-Unis, la France, c'est juste de la Russie, par exemple, ou de l'Arabie Saoudite, c'est justement le fait qu'il y ait une justification légale et juridique qui soit présentée. Donc c'est un point très important.
I'm القمر طلع القمر اصطناعي شميت القمر طلع القمر بلاستيكي تكاتيكي تكاتكاتيكي
Culture,
Esprit de justice,
Antoine Garapon.
Esprit de justice, toujours avec Amélie Ferret, sur cette question des assassinats ciblés et de leur justification, qui a choisi de nous faire écouter un groupe palestinien.
Oui, exactement. Donc, un groupe palestinien qui s'appelle 47 Sons. Et d'ailleurs, la musique assez reconnaissable qu'on entend, c'est du dabke, qui est une musique traditionnelle palestinienne. Et donc, ce titre s'appelle Gamar. Et j'invite les auditeurs et les auditrices à voir le clip, puisque c'est toute une réflexion sur la Lune qui est devenue un satellite. Et donc, je trouvais que ça illustrait bien cette idée de surveillance globale du ciel comme non plus un espace de rêverie, mais comme potentiellement un espace de menace avec les drones armés qui sont utilisés pour faire des assassinats ciblés.
Oui, c'est le débat américain, là, on en parlait à l'instant, il adore le mot de weaponization, le fait de transformer tout en arme, hein, y compris la Lune,
voilà.
qui devient un instrument de surveillance. Mais Amélie Ferret, ça veut dire que le monde, vous êtes spécialiste des questions stratégiques, vous travaillez à l'école militaire, mais dans le fond, c'est le slogan d'ailleurs de l'armée américaine, hein, « Nowhere to hide, nowhere to run ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun endroit où on peut se cacher, ou plus aucun endroit où on peut s'enfuir. Et donc ça veut dire que c'est une terre dans laquelle il n'y a plus d'asile.
Voilà, mais en tout cas ça c'est ce que veut faire croire les États-Unis, parce que ce qu'on voit c'est qu'on a quand même des groupes terroristes qui sont rompus aux techniques de clandestinité et qui arrivent quand même à se cacher pendant assez longtemps. Par exemple, c'est évidemment le cas de Ben Laden est important. Après, on ne sait pas avec l'évolution technologique comment ça va se passer dans les années à venir, mais ce qui est sûr c'est que ces technologies de surveillance permettent en tout cas de réduire considérablement la capacité d'action des individus qui sont des individus ciblés, qui sont quand même des individus extrêmement nocifs.
Oui, mais alors c'est ça toute la difficulté. D'ailleurs, un des mérites de votre ouvrage, Amélie Ferret, c'est précisément de montrer cette complexité. Complexité parce que on aurait tendance, et c'est peut-être une tendance, vous allez nous le dire, chez les militaires, à se cantonner à la stricte efficacité. En disant, est-ce que ça marche, les assassinats ciblés? Est-ce qu'on a bien décapité une organisation? En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça.
Voilà, exactement. C'est en tout cas ce que j'essaie de montrer dans le livre. Parce que, oui, enfin, il y a tout un débat sur cette question de l'efficacité. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que oui, les assassinats ciblés au niveau tactique marchent. C'est-à-dire que justement, ça empêche la communication entre les personnes de groupes terroristes. Ça réduit leur capacité à agir puisque ça enlève certaines compétences qui sont décisives. Par exemple, quand vous éliminez un des ingénieurs qui crée des drones pour le Hezbollah, bon, bah forcément, vous ralentissez la capacité de nuisance du Hezbollah. Cependant, est-ce que c'est une stratégie qui marche? Et ça, à mon avis, c'est l'écueil des décideurs politiques qui ont tendance à confondre niveau tactique et niveau stratégique en se disant, ah ben voilà, on a les drones, donc du coup, autant ne plus rien faire dans la lutte antiterroriste et seulement s'appuyer sur cette tactique-là. Alors que non, en fait, si on veut avoir une lutte antiterroriste qui est efficace, effectivement, les assassinats ciblés, c'est un outil, mais on ne doit pas se privé des autres outils qui sont parfois plus coûteux, à la fois en termes de communication politique et en termes de ressources.
Oui, et puis en termes de politique, à plusieurs passages dans votre livre, Amélie Ferret, vous plaidez pour la politique en disant c'est pas l'efficacité, la question n'est pas l'efficacité, sous-tend tellement d'ailleurs que si on prend l'exemple du Hezbollah, on a assassiné par les Israéliens ont assassiné Al-Moussaoui, qui était finalement un leader plus modéré que celui qui lui a succédé, Ibrahim Nasrallah. Voilà, c'est ça. Et donc c'était pas une bonne opération, ils ne pouvaient pas le savoir, mais c'est pas une bonne opération. Donc c'est une manière de techniciser la guerre ou de techniciser la réplique, d'empêcher la politique ou de retarder la politique. C'est peut-être une des difficultés de ce débat sur les assassinats ciblés.
Tout à fait, c'est exactement ça. D'autant que je regrette aussi qu'en France, et c'est pour ça que j'ai aussi écrit le livre, le débat au niveau politique il soit quasiment inexistant.
Bah, alors, pratiquement beaucoup non plus hein, d'assassinats ciblés.
Oui, mais quand même, c'est une pratique qui quand même engage la mort et la vie et qui est quand même assez violente pour une démocratie, donc de décider de la mort d'individus au plus haut sommet de l'État et donc qui doit être débattue. Et sur la technologie, effectivement, les assassinats ciblés, au niveau tactique, ça marche quand même. La technologie permet effectivement de sauver la vie de nos soldats, mais à quel coût ? Et je pense que ça nous engage politiquement, mais ça nous engage aussi moralement. Oui. Et c'est ça qu'il faut pas perdre de vue.
Bien sûr, mais alors en France, on a un obstacle par rapport aux Israéliens, c'est qu'on n'aime pas beaucoup le droit, on ne parle pas beaucoup en termes juridiques, et j'allais dire, on n'aime pas beaucoup le réel non plus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette tension qu'ont les Israéliens, et c'est donc deux éléments importants et angoissants d'ailleurs, parce que si on reprend l'histoire de Ben Gallem, un peu, qui a été une histoire française, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait le ramener en France, le capturer, le ramener en France, mettre la vie de nos soldats en danger, ensuite mettre nos prisons en danger, augmenter le niveau d'insécurité dans nos rues et dans nos cités. C'est une véritable difficulté quand même.
Alors je ne m'aventurerai pas sur le chemin de qu'est-ce qu'il fallait faire parce que c'est un chemin glissant.
Mais les militaires, ils vous posent bien la question quand même aux politiques.
Non, les militaires, moi je me concentre d'humblement éclairer ce qui se fait dans d'autres armées. Mais par contre, ce que vous avez dit sur le droit, ça c'est très important et j'espère que l'armée française va justement évoluer. Mais elle est en train d'évoluer sur cette question du droit.
C'est engagé depuis quelques années.
Exactement. Hein. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il faut aussi que ça suive du côté de l'opinion publique, des décideurs politiques. Mais en tout cas, sur la gestion des individus français qui sont partis rejoindre les rangs de l'État islamique ou qui ont trahi la nation et qui ont rejoint des ennemis, je pense que les éliminer n'est pas forcément, en tout cas n'est certainement pas plutôt une stratégie efficace à long terme. Pour certains cas, évidemment, ça peut être considéré, mais à long terme, non. Et moi, je plaide plutôt, à mon humble niveau de chercheuse, encore une fois, pour le procès. Pourquoi ? Parce que donc j'ai étudié un peu le procès de Carlos et je pense que le procès, l'espace du procès est en soi un espace de décision publique, un espace de délibération publique.
Prêcher à convertir.
Ben voilà, et donc ce qu'il faut pour la société française, pour comprendre pourquoi des personnes trahissent, qu'est-ce qui se passe au niveau international, au niveau mondial, quelles sont les raisons de cette violence envers l'Occident, parce que c'est finalement une violence envers l'Occident, et quelles sont les violences commises, elles aussi, par l'Occident, je pense qu'il faut justement engager un débat public, et c'est peut-être une réponse optimiste, mais en tout cas, je pense que le droit, pour le coup, peut avoir une réponse intéressante.
Oui, et puis c'est une manière de montrer notre supériorité morale, de la supériorité morale des démocraties par rapport aux États non démocratiques. C'est très important, d'ailleurs, dans la manière de le dialogue qu'on peut avoir avec les jeunes qui rentrent de Syrie, c'est de leur dire regardez, vous êtes bien sûr détenus dans des prisons françaises, mais vous avez des droits, vous avez accès à un imam, vous avez des garanties, vous aurez un procès. Donc, et c'est ça qui fait la différence. Mais vous allez plus loin parce que le sous-titre c'est de votre livre Amélie Ferret, c'est critique du libéralisme armé. Mmh. C'est que dans le fond, c'est une question qui est posée au libéralisme politique, je crois, hein, cette question des assassinats ciblés. C'est pour ça qu'elle est extraordinairement intéressante. Et la question qu'elle pose, c'est la question de la mort. C'est la question de la capacité d'Aneta, de donner la mort.
Exactement.
Qui a donné un grand débat au 19e ou 20e siècle aussi sur la peine de mort. Mais dans le fond, il persiste ce débat sur la peine de mort à travers les assassinats ciblés.
Tout à fait, c'est exactement ça. Et ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai trouvé passionnant, c'est pour comment aujourd'hui en France, alors que justement l'individualisme fait que chaque vie humaine est très importante, on est prêt justement pour récupérer des otages français à prendre des risques importants. On considère justement que la vie d'un soldat, eh bien, elle vaut justement de le protéger au maximum et donc d'utiliser des technologies comme les drones qui vont...
un incontestable progrès par rapport à la guerre 14 quand même.
Exactement.
Par exemple.
Bah voilà, exactement, c'est exactement ça. Donc on est dans ce point de vue où au niveau des valeurs, l'individu, la vie individuelle est respectée, ce qui est une très bonne chose. Et donc c'est pour ça que paradoxalement, cet État qui doit protéger les individus, comment peut-il lui se permettre de tuer d'autres individus ? Et comment gère-t-il, comment rationalise-t-il cet acte de tuer ? D'autant que le libéralisme est justement construit sur l'idée que la violence doit disparaître du champ politique, en tout cas du champ politique intérieur.
Au bénéfice du débat, de l'explication,
voilà,
de l'argumentation.
Exactement, parce que quand j'ai fait ce livre aussi, je me suis rendu compte que par exemple l'assassinat politique a été une technique tout à fait légitime en politique interne.
Vous dites jusqu'à Henri IV, c'est l'assassinat d'Henri IV qui fait bascule dans l'histoire de France.
Voilà, exactement. Mais avant, c'était tout à fait, on avait des gens qui écrivaient des livres pour expliquer justement pourquoi un tel avait tué un tel et que c'était une très bonne chose, etc.
La question du tyrannicide.
Voilà, la question du tyrannicide, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on est plus du tout dans ça au niveau de la politique interne. Voilà, on privilégie le débat, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence à l'extérieur.
Mais Amélie,
et c'est cette violence à l'extérieur qui revient perturber le libéralisme.
Oui, bah oui, c'est ça. Mais c'est une réalité. Cette violence de l'extérieur, le monde et la violence du monde revient chez nous. Les frontières ne sont plus ce qu'elles étaient dans le monde westphalien. C'est une réalité. Et la question de l'opinion, vous en avez parlé à plusieurs reprises au cours de cette émission. C'est très important. C'est très important, l'opinion. Nous sommes dans des démocraties d'opinion. Et les opinions demandent, elles sont de plus en plus frileuses, peut-être de plus en plus peureuses. Et vous posez cette question que pose également Ronald Dworkin, qui me semble être une question centrale pour nous aujourd'hui, c'est jusqu'où protéger la communauté politique ?
Voilà, c'est exactement la question effectivement que posent les assassinats ciblés. Et pourquoi ça s'appelle le libéralisme armé ? Parce que qu'est-ce qui a fait qu'on a pu faire reculer la violence à l'intérieur des frontières ? C'est l'utilisation du droit. Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui que justement on peut tuer par drone, etc. C'est aussi le droit. Et c'est pour ça que ce qui me paraît important, c'est de toujours, mais c'est pas une question nouvelle évidemment, analyser le rapport entre droit et violence, protection par le droit et violence par le droit. Et d'ailleurs, je me permets de citer à cet égard, dans le cadre de l'opinion publique française, tout le débat qu'il y a eu sur la déchéance de nationalité sous François Hollande, qui n'a pas été formulé comme tel.
C'est une forme d'élimination symbolique.
Voilà. Mais surtout, moi, ce que j'ai vu, j'étais en train d'écrire le livre à cette période-là, c'était, effectivement, ça peut être une réponse au fait qu'on a des binationaux qui sont partis faire le djihad quelque part, et donc la France ne va pas les éliminer parce que ce sont des citoyens français, mais en même temps, ils sont binationaux et ils combattent ailleurs. Donc pourquoi ne pas les déchoir de leur nationalité et ensuite les éliminer le cas échéant s'il y a des opérations ou des occasions qui se présentent au niveau de l'armée. Et je pense que voilà, c'était ça le terme de ce débat, c'était la protection de la communauté, jusqu'à quel point, et est-ce que ça veut dire aussi protéger tous les individus de la communauté, même ceux qui sont une menace pour elle.
Et de ce côté-là, la France est quand même assez rigoureuse. Si je compare à la Grande-Bretagne, qui est un pays très proche et dont nous avons emprunté beaucoup au cours de l'histoire, j'ai été frappé de la froideur avec laquelle le gouvernement britannique a dit « mais nous ne considérons plus comme des concitoyens, ils n'ont pas le droit de revenir en Grande-Bretagne ». innombrables. Alors que nous n'avons jamais dit des choses comme ça. Il y a une auteure que vous citez beaucoup, qui vous a beaucoup inspiré, qui est pas tellement connue en France, c'est Judith Sklar.
Voilà.
Judith Sklar, parce que Judith Sklar, elle a bien posé le problème de ça, cette dimension du libéralisme, en parlant du libéralisme de la peur.
Voilà, exactement. Donc elle, c'était donc une professeure à Harvard, et ce qu'elle explique, c'est que justement le libéralisme est fait aussi pour répondre à la peur, et répondre à la peur notamment par la peur pour sa vie, et c'est en ça qu'elle rejoint, enfin qu'on peut faire en tout cas un lien avec Foucault, et également la peur pour préserver la communauté. Et je pense que c'est vraiment ça la question qui est posée au libéralisme aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est vrai que la France, elle est différente par rapport aux autres pays, mais quand on parle à des Israéliens, ils disent « Ah, mais la France, vraiment, mais qu'est-ce qu'ils sont hypocrites ?» Puisque voilà, ils se targuent d'avoir des valeurs et de ne pas faire ce que nous on fait, mais finalement ils le font et sous le sceau du secret.
Oui,
donc ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai ou pas,
oui,
mais en
oui,
tout cas il y a un
oui.
rapport quand même à la publicité qui est décisif. Par exemple, quand François Hollande a finalement admis avoir fait quatre opérations ciblées dans le livre donc de Davé et l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on n'a pas du tout eu comme en Israël ou aux États-Unis des penseurs ou des personnes de l'opinion publique qui ont salué, mais au contraire l'opposition politique a dénoncé cette action de François Hollande au nom de la trahison
il n'aurait pas dû le dire.
Voilà.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la situation de la France n'est pas comparable aussi avec la situation d'Israël, dans le sens où nous sommes un vieil État en paix avec nos voisins. Nous avons rencontrons bien sûr la question de terrorisme, mais il n'y a pas cette dimension qui est très forte et qu'on sent en filigrane dans votre livre Amélie Ferret, c'est-à-dire que cette violence fondatrice, n'oublions pas ce que nous rappelle Hannah Arendt, c'est que nous sommes tous tributaires, nous sommes en dette en quelque sorte de la violence qui a été faite par nos ancêtres, par les fondateurs de l'État, et qui fait que il y a un lien, y compris pour le libéralisme, entre la politique et la violence. Le libéralisme de la peur, c'est aussi le droit distille aussi la peur à travers la peine, à travers les sanctions, c'est notre condition politique.
Exactement. Et c'est tout à fait important de le souligner, parce que justement, on a tendance à associer libéralisme et pacifisme, en se disant voilà, oui, le libéralisme, c'est magnifique, c'est l'état de droit, le droit contre la violence, et tout le monde qui vit dans une sorte de communauté biopolitique,
oui,
où l'État prend en charge le bien-être des individus. Et ce que rappelle Arendt et Sklar, c'est que finalement, le lien est beaucoup plus poreux que ça.
Eh bien, merci beaucoup, Amélie Ferret.
Merci à vous, Antoine Garapon.
Esprit de justice, Amélie Ferret, Pierre Henry, Catherine Denet, Sandrine Chaperon, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. À mercredi prochain, 21h.